Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
h33 sur RMC et BFM TV. Bonne année à tous. Mais elle commence douloureusement pour les Ukrainiens. Bonjour, général Jean-Paul Baloméros.
Bonjour.
Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes l'ancien commandant suprême allié. Transformation de l'OTAN. L'OTAN qui est aussi au cœur de toutes les attentions du côté du président ukrainien, notamment. Pourquoi est-ce que j'ai voulu démarrer l'année avec vous, général? Eh bien, parce que c'est d'un hiver à l'autre la guerre qui s'installe donc en Ukraine, une guerre longue. Et dans les vœux à la fois du président Zelensky, mais aussi de l'autre côté, du côté russe, dans les vœux du président Poutine, eh bien, ils ont chacun parlé de victoire. Le président Zelensky a dit « Bonne année, l'année de notre victoire ». Voilà ce qu'il a souhaité, bien sûr, à ses habitants. Vladimir Poutine lui a dit « Nous allons rendre notre pays grand et indépendant. Ensemble, nous allons surmonter tous les obstacles et nous allons gagner. » Qui croire ?
Il y a un an, se retrouver à la même place, on vivait dans cet espoir fou finalement que M. Poutine n'aurait pas cette audace, cette ambition d'envahir l'Ukraine. Un an plus tard, on se rend compte que cet espoir a été déçu. Donc on ne peut pas vivre d'espoir, ça c'est la première conclusion, il faut vivre dans l'action. Après, la rhétorique des deux chefs d'État, elle est tout à fait légitime. Monsieur Zelensky se bat depuis pratiquement un an à la tête de son pays courageusement et il a totalement déjoué tous les pronostics, si je puis dire. Ça, c'est quand même un premier élément. Les Ukrainiens ont été capables non seulement de lever la tête, mais de tenir ferme. Ils ne l'ont pas fait tout seuls, ça c'est le deuxième élément. Ils l'ont fait grâce au soutien des Européens, d'une manière plus générale des Occidentaux, de quelques autres pays aussi, au moins moralement, je dirais, au Conseil des Nations Unies.
Et on va revenir sur cette aide et sur les prochaines étapes.
Et donc, notre espoir, il doit résider dans notre action. Et bien montrer que cette action, elle doit s'inscrire dans le long terme. On peut avoir un sentiment de fatigue, d'usure, en se disant qu'est-ce que c'est difficile. Mais songeons à nos amis ukrainiens qui sont, eux, en première ligne et qui le payent de leur vie au quotidien. On l'a vu encore cette nuit. Et c'est à eux qu'il faut penser aujourd'hui à l'aube de cette nouvelle année en se disant leur courage seul ne suffira pas. C'est l'alliance des pays démocratiques qui se battent aujourd'hui pour la liberté. Les Ukrainiens sont en première ligne de notre liberté.
De notre liberté, c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron lui-même, je faisais référence aux vœux de Vladimir Zelensky, aux vœux de Vladimir Poutine, les vœux d'Emmanuel Macron lui-même s'est aussi adressé aux Ukrainiens et il a aussi parlé de victoire. Écoutez.
Qui est ce soir en votre nom dire à nos amis ukrainiens, nous vous respectons et nous vous admirons. Votre combat pour la défense de votre nation est héroïque et il nous inspire. Et durant l'année qui s'ouvre, nous serons sans faillir à vos côtés. Nous vous aiderons jusqu'à la victoire et nous serons ensemble pour bâtir une paix juste et durable.
Nous vous aiderons jusqu'à la victoire. Alors on va regarder par quels moyens humains, moyens d'aide financière, moyens d'armes. Mais ce mot victoire, je m'y arrête un instant parce que quand justement on est général, quand on parle de paix, de victoire ou de défaite, ça n'est pas la même chose. Est-ce qu'il faut absolument une victoire pour qu'il y ait paix ?
Les expériences récentes montrent que la victoire absolue, elle n'existe pas. Enfin, on n'a pas un théâtre. Si on met à part, malgré tout, la Deuxième Guerre mondiale, mais victoire à quel prix ? Il n'y a pas de victoire absolue. Il y a des victoires sur le terrain, et c'est important. Les Ukrainiens nous en ont montré des exemples cette année, hein, en défiant là aussi toutes les prévisions. Mais il y a surtout une victoire globale, c'est celle qui vise à restaurer les conditions d'une certaine autonomie stratégique, des pays qui souhaitent vivre ensemble selon des valeurs communes et qui souhaitent les défendre. Et là, je pense qu'on a une victoire au moins morale vis-à-vis de M. Poutine aujourd'hui, c'est qu'il a été forcé de se dévoiler. Il a été montrer quel était vraiment son dessein. Là où il s'abritait.
Son dessein, c'est quoi ? Quel est l'objectif ? Qu'est-ce qui, aux yeux de Vladimir Poutine, serait le synonyme d'une victoire ?
Je crois que son dessein, c'est tel que je peux le comprendre, c'est le pouvoir absolu sur ce que lui considère comme la Grande Russie. Enfin, il y a eu beaucoup de thèses sur le sujet.
Mais elle s'arrête où, la Grande Russie ?
C'est toute la question. Elle s'arrête, et je pense que les pays limitrophes qu'il a rassemblés récemment doivent commencer à s'inquiéter, parce que l'Ukraine, c'est évidemment, entre guillemets, le plus gros morceau. Mais on voit bien que le président biélorusse lui-même n'est pas très, très rassuré. Et on pourrait parler du Kazakhstan, on pourrait parler de tous ces pays qui environnent la Russie en se disant, mais finalement, où il va s'arrêter ? Est-ce qu'il veut restaurer l'Union soviétique, qui d'ailleurs a été créée il y a exactement 100 ans, qui avait été, il y a 100 ans, le 30 décembre 1922, était créée l'Union soviétique. Elle a duré à peu près 70 ans.
Est-ce que c'est ces frontières-là ? Justement, si on regarde la question des frontières et de l'état des troupes, général, au moment où on se parle, quel est l'état des troupes ? L'état des troupes ukrainiennes, l'état des troupes russes ?
Alors, l'état des troupes russes, d'abord, des sacrifices, beaucoup, beaucoup de pertes. Hein. Vous avez une émission ce soir sur le sujet, on va entendre des soldats russes. C'est très intéressant, on a assez peu de retours directs du terrain, et saluer d'ailleurs les reporters de guerre qui font un travail extraordinaire en matière. On en a besoin, on a vraiment besoin d'avoir
les
ces témoignages.
Les Ukrainiens évoquent 100 000 morts du côté des soldats russes. Est-ce que ce chiffre vous paraît crédible ?
Je crois qu'il y a 100 000 morts et blessés, je dirais. Des hommes, des femmes qui ne peuvent pas aller au combat, quoi. Mises hors de combat. Oui, c'est crédible. Vu la méthode, la tactique, la stratégie russe, il est clair, et les témoignages qu'on a du front, il est clair que c'est quand même... ils consomment des ressources rares, et c'est une génération de jeunes Russes là, qui sont en train de...
Vous parleriez d'une génération sacrifiée ?
On le verra à la fin de la guerre, mais une partie en tout cas.
Et du côté des pertes ukrainiennes ?
Alors, ça c'est encore plus difficile, parce que les Ukrainiens, évidemment, ne dévoilent pas les choses. Ils ont raison de le faire. Le président Zelensky, il booste, entre guillemets, le moral de ses troupes, mais ils perdent aussi, bien sûr. Il faut être conscient qu'on ne défend pas son pays, sa liberté, dans ces conditions-là, face à l'armée rouge.
Mais est-ce qu'on a un peu un ordre de grandeur ?
Les dernières sources qu'on avait donnaient à peu près un chiffre équivalent de 100 000 blessés et morts. Évidemment, les Ukrainiens ne peuvent pas s'engager là-dessus, mais c'est coûteux, bien sûr que c'est coûteux. Le nombre compte, si vous voulez. Le fait que les Russes puissent alimenter en ce moment à un prix exorbitant, le front en particulier dans le Donbass, présente aussi des risques, évidemment, pour les
Ukrainiens. Vous avez dit le mot front, général Palomeros, et je voudrais qu'on s'y arrête un instant, parce que précisément, je voudrais comprendre ce qui se passe sur le sol. Est-ce qu'il y a un front ?
Ah, ça dépend comment on définit un front, mais il y a un moment,
est-ce qu'il y a un lieu d'affrontement ? Est-ce qu'il y a des tranchées sur le sol ? Est-ce qu'il y a une ligne définie ?
Oui, oui. Il y a même des soldats russes qui sont en train de payer lourdement de leur vie le fait de creuser des tranchées à ciel ouvert. On en a eu des témoignages. Ça, c'est quand même pas ce qu'on peut faire de mieux dans une bonne stratégie militaire. Mais oui, il y a un front. On a à Bakhmout, par exemple, on a l'expression d'un front. Alors, il est peut-être pas continu sur les 900, 800 et quelques kilomètres, mais il existe. Et
est-ce que ce front est mouvant ?
Alors, oui, et c'est important, cette question, parce que c'est la question qui se pose aujourd'hui aux Ukrainiens. C'est de se dire, on ne peut pas, à mon avis, ce n'est pas dans l'intérêt de laisser s'établir ce front. Et c'est vrai, franchement, parce que fait M. Poutine pendant ce temps-là ? Il continue ses attaques dans la profondeur, il mobilise ses réservistes, et c'est lui qui reprend la main quelque part. Alors que la grande force des Ukrainiens, ça a été d'être toujours en avance et de déjouer les prédictions et d'être très offensif, de prendre l'initiative grâce à des techniques et grâce à leur courage, mais leur innovation aussi, leur imagination.
Si vous étiez aujourd'hui, général Palomeros, général des armées ukrainiennes, vous diriez, il faut percer ce front, il faut le rendre plus dynamique, il faut réussir à prendre par surprise.
On a vu très très récemment une réflexion stratégique qui a été faite à livre ouvert des présidents ukrainiens avec ses chefs militaires, et qui posait très clairement le débat en disant, voilà, c'est pas une bonne option de se laisser enfermer dans cette dynamique, dans cette...
Au contraire, justement, d'une dynamique, dans cette ligne figée.
Mais si on veut soit attaquer par le nord, ce qui serait une bonne option, puisque ça couperait les lignes logistiques, en particulier des Russes, et ça les déstabiliserait, comme ils l'ont fait du côté de Kharkiv, avec un grand succès, soit... dans le sud, où ils ont obtenu aussi une victoire à Kherson, mais une victoire limitée par le Dniepr. et à ce moment-là, venir et descendre sur Mélitopol. Ça, on en a beaucoup entendu parler, ce qui les rapprocherait de la Crimée.
Ça, c'est une offensive terrestre.
Alors, c'est terrestre, aéroterrestre. C'est là aussi qu'on voit
être à l'offensive.
Le manque d'une dimension aérienne pour les Ukrainiens est quand même un déficit. Et je ne pense pas que les pays occidentaux fournissent ça dans les médias. Ça, c'est une limitation de l'aide qu'on apporte aujourd'hui aux Ukrainiens. Mais la question, c'est quelles sont, et ça revient à votre question sur les ressources humaines, quelles sont les réserves dont dispose l'armée ukrainienne? Et ça, je ne sais pas. Si j'étais chef des armées ukrainiennes, je le saurais. Et je serais peut-être dans l'embarras de savoir si je dois engager mes réserves coûte que coûte, entre guillemets, et si je suis capable ensuite de le renouveler. On sait qu'il y a des milliers de soldats ukrainiens qui sont en formation, en particulier dans les pays occidentaux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut qu'ils arrivent à temps et avec le matériel, évidemment, adéquat.
Et je le disais, général Jean-Paul Paloméros, la guerre s'installe, c'est devenu une guerre longue, ça fera un an dans deux mois. Est-ce que le temps joue en faveur de la Russie? Est-ce que la Russie joue ce temps long?
Personne ne peut répondre à cette question aujourd'hui parce que tout va dépendre de notre volonté, de la volonté collective des uns et des autres de poursuivre et de se donner les moyens de poursuivre dans l'action. Moi, mon sentiment, c'est que M. Poutine, il a à peu près tout mis sur la table. Ses cartes, elles sont claires. Il les frappe dans la profondeur, on s'y attendait. On ne s'attendait pas tellement à ce qu'il puisse bénéficier du soutien, par exemple, de l'Iran sur des drones, des choses comme ça. Et ce qu'on peut peut-être espérer, ce soutien se limite à ce niveau-là. Parce que si par malheur, l'Iran fournissait d'autres armements comme des missiles balistiques, ça changerait un petit peu la donne. Et souhaitons que ça ne soit pas le cas. D'un autre côté, ukrainien, l'espoir, il est soutenu par la volonté collective de ne pas se sentir seul. D'abord, de sentir qu'ils ont une force individuelle et qu'ils sont capables de faire front. Mais pour combien de temps? La résilience a quand même des limites. Enfin, il faut se mettre à la place des Ukrainiens aujourd'hui qui chaque nuit, chaque jour. Donc ça finit par user, ça use aussi le potentiel industriel, ça use forcément les capacités de défense, qu'on le veuille ou non.
Mais qui sont renouvelés, et on vient à cette question de l'aide, qui sont renouvelés quand même par l'aide occidentale. Vous parliez des Européens, les Américains. Il y a eu évidemment cette rencontre historique entre Volodymyr Zelensky et Joe Biden à la Maison-Blanche, avec cet aller-retour entre le président ukrainien aux États-Unis, avec une aide quasi illimitée.
Elle est limitée malgré tout par le potentiel, en particulier aujourd'hui, des Américains à continuer à fournir toute la logistique, l'armement, les munitions. C'est pas aussi simple que ça. On a affaire dans certains domaines.
C'est une aide colossale malgré tout.
C'est une aide colossale. C'est ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale entre guillemets. Mais sauf que là, il faut le faire vraiment à chaud pendant les opérations. Donc, ce qui pose la question pour les Européens de savoir comment ils peuvent encore dynamiser leur aide et de vraiment mettre leur industrie de défense sur le pied de guerre, quoi. C'est ça la question. Alors, pour nous aujourd'hui.
Et avant de rentrer dans l'aide précise des Français, parce que pour le coup, Volodymyr Zelensky a reçu aussi la visite il y a quelques jours du ministre de la Défense français, qu'il a chaleureusement remercié, mais on sent qu'il en veut encore plus, il aurait besoin d'encore plus. Mais précisément, quelle est la limite générale entre ce qui fait de nous des aides, des complices, des alliés, et ce qui ferait de nous des co-belligérants? Je repose cette question aujourd'hui parce qu'on se l'est beaucoup posée au début de la guerre, et puis voilà que l'aide est quand même beaucoup venue. Est-ce qu'il y aurait un moment, qu'est-ce qui nous ferait basculer? Alors, est-ce qu'on peut aider encore plus sans basculer dans cette co-belligérance?
Je pense que la co-belligérance, elle dépend de l'appréciation de chacun. C'est à M. Poutine de nous dire quelle est son appréciation de la co-belligérance, mais nous, on n'a pas à se soucier de cela. Il faut simplement qu'on soutienne, et je crois que c'est ce qui est le cas aujourd'hui, les Ukrainiens, en fonction des besoins qu'ils expriment par rapport à la guerre qu'ils veulent mener. D'abord, ils veulent protéger leur territoire, et ça, on le sait depuis le départ, donc continuer...
Là, c'est plutôt une guerre de défense.
Inlassablement, absolument, parce que protéger, c'est l'essentiel quand même. Ses citoyens, ses infrastructures critiques, le pays et sa souveraineté, quelque part. Deuxièmement, évidemment, et c'est là que se pose votre question, c'est les moyens offensifs. Jusqu'à présent, et en particulier les Américains, qui possèdent des moyens dans ce domaine, nous aussi, mais... on s'est interdit de fournir des moyens de frappe dans la grande profondeur. Et ça peut commencer par une aviation de chasse, en allant jusqu'à des missiles qui ont des portées lointaines.
Si vraiment, on se dit, il faut que l'Ukraine gagne cette guerre, Est-ce qu'il faudrait franchir cette étape?
Je ne le pense pas.
Pas juste tienne, hein, mais gagne cette guerre.
Je ne le pense pas parce que dans la dynamique qui est celle qu'on voit se dérouler aujourd'hui, ou au moins l'affrontement tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, c'est pas exactement de ce type d'armes dont les Ukrainiens ont besoin. Ils ont montré qu'ils étaient capables de frapper dans la profondeur, et c'est remarquable, et ça prouve aux Russes qu'ils ne peuvent pas dormir tranquilles. Ils ont été quand même obligés de reculer leurs bombardiers stratégiques sur des bases plus lointaines. C'est quand même une belle victoire pour les Ukrainiens. Mais au-delà de ça, je pense que ça ne présenterait le coût efficacité n'est pas favorable. Au contraire, ce qu'il faut, c'est continuer à donner des moyens de frappe sur le théâtre et à fournir surtout ce que demandent les Ukrainiens aujourd'hui, c'est d'avoir plus de pièces, par exemple d'artillerie, plus de...
Y compris pour la réparation d'ailleurs du matériel qu'on a déjà
exactement.
Envoyé.
C'est ça la clé, à la fois pour les Russes et pour les Ukrainiens, la clé c'est d'entretenir l'effort. C'est maintenant qu'on va voir qui est le plus fort. C'est est-ce que nous, collectivement, on est capable d'entretenir, de soutenir les Ukrainiens et leur montrer qu'on est là coûte que coûte, c'est un peu ce que disait le président, et bien maintenant passons à l'action. Et puis, de l'autre côté, les Russes qui ont quand même des limites, même si leur industrie semble continuer à tourner. Ça, c'est un vrai sujet.
Et général, Volodymyr Zelensky, je le disais, a rencontré donc le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, qui était à Kiev. Voilà ce qu'il a dit à la suite de cette rencontre. Nous avons discuté de la coopération au cours de l'année, donc ça veut dire vraiment aussi sur le long terme, de la reconstruction de notre pays, il voit déjà l'après, et d'une nouvelle étape dans le renforcement de notre défense aérienne. Merci la France, a dit Volodymyr Zelensky. Nous sommes reconnaissants à la France pour l'assistance militaire déjà fournie visant à protéger le ciel ukrainien et à renforcer les capacités de force de défense. La défense aérienne, vous disiez tout à l'heure, la question c'est aussi ce qui se passe dans les airs. Pour l'instant c'est de la défense aérienne, on n'a jamais évoqué l'idée d'envoyer des avions.
Ça semble être...
C'est le tabou, c'est la ligne...
Alors, vous savez, on a vu au fil de ce conflit les choses évoluer. Pour prendre un exemple très concret, qui eût pu dire à l'instant T, quand cette guerre s'est déclenchée, que les Américains enverraient un de leurs meilleurs systèmes de défense aérienne, le Patriot. Nous-mêmes, on n'avait sans doute pas envisagé de déployer les moyens qu'on a donnés. Donc, ça va continuer à évoluer. Il faut être très dynamique. Maintenant, il faut bien prendre conscience qu'il y a des limites. On ne peut pas créer une aviation.
C'est nos propres limites.
C'est notre propre limite, et puis
c'est limite de ce qui est acceptable.
La réalité, non, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans nos propres limites. C'est la réalité. On ne peut pas reconstruire une aviation de combat comme ça du jour au lendemain. C'est inimaginable. Donc, il faut contrôler.
Que ce soit d'ailleurs pour l'Ukraine ou pour nous-mêmes, si tant est qu'un jour nous en avions besoin.
C'est tout le sujet, la loi de programmation qui va être débattue cette année. Et si je n'ai qu'un espoir, c'est que cette loi de programmation soit à la hauteur des ambitions affichées par notre pays. Non seulement des ambitions nationales, qui sont légitimes, des ambitions européennes, des ambitions au sein de l'OTAN et des ambitions pour soutenir l'Ukraine.
Général, dans ses vœux, Volodymyr Zelensky a eu cette phrase assez ambiguë sur le fait qu'il rejoignait l'Union européenne. On nous a dit de nous rendre, nous avons choisi la contre-attaque. On nous disait de faire des concessions et des compromis, mais voilà, nous rejoignons l'Union européenne et l'OTAN.
Écoutez, je crois que le monde a changé, très clairement. Monsieur Poutine a souhaité que le monde change et j'espère
que ça... provoqué ce changement.
Il a provoqué ce changement, complètement. Donc, la donne qui prévalait avant, l'an dernier, à la même heure, où l'OTAN ne paraissait pas, ni l'Union européenne, tout ça paraissait lointain, et on prenait plutôt des gants pour ne pas éventuellement susciter la réaction de M. Poutine. Bon, il a démontré que tout ça, ce n'était qu'un alibi. Un alibi par rapport à son ambition démesurée de non seulement d'occuper l'Ukraine, de la réduire à néant et de reconstruire sur les ruines.
Donc il n'est pas faux de dire, comme le dit Volodymyr Zelensky, nous rejoignons l'Union européenne et l'OTAN? Ou est-ce que c'est une manière de parler?
Pour lui... il ne peut pas y avoir d'autre alternative. Et nous, mon sentiment, c'est que nous devons aussi nous en convaincre. Qu'est-ce qu'il restera au bout du compte, en souhaitant que cette année soit l'année de l'arrêt des combats, en le souhaitant vraiment profondément? L'espoir n'est jamais une stratégie, on l'a bien vu. Donc c'est l'action qui conduira à cela. Il faudra donner des garanties de sécurité à l'Ukraine, des vraies garanties de sécurité, pas un papier qui
sera... Vous avez évolué là-dessus, général? Au départ, vous n'étiez pas forcément... Vous ne pensiez pas que l'ouverture de l'OTAN ou de l'Union européenne à l'Ukraine était possible.
Absolument. Pourquoi? Parce qu'il y avait la solution hantée où il y avait une sorte d'équilibre qui s'était établi. C'était un mauvais équilibre. Les Russes avaient pris la Crimée, ils s'en étaient sortis les manettes. Ils agissaient dans le Donbass. On avait admis que cette guerre, plus ou moins gelée, continuait. Et... en gros, les pays, que ce soit les pays de l'OTAN, les Européens et les Américains aussi, bah, se contentaient de cette espèce de statu quo en disant bah, « on verra bien ». Et puis là, c'est M. Poutine qui a décidé de lancer les
hostilités. Et vous insistez beaucoup sur ce point.
Et donc, ça a changé le monde. Le monde a changé. On est rentré dans une nouvelle forme, je suis désolé de le dire sous cette forme-là, mais de guerre froide. Il l'a voulu ainsi, et donc il faut s'y préparer, et maintenant, donner des garanties de sécurité. Et c'est là que l'équation a totalement changé. C'est parce qu'il a pris cette initiative folle, et maintenant, nous devons répondre. Et la seule réponse que je vois aujourd'hui, c'est effectivement cette cohérence entre l'engagement européen et l'engagement otanien, qui puisse garantir une véritable défense collective, et aussi la construction, la reconstruction d'une Ukraine qui appartiendrait à l'ensemble européen, comme c'est le cas au plan purement géographique.
Général Jean-Paul Paloméros, merci à vous merci de toutes vous. Ces explications, cette perspective aussi, vous qui êtes ancien commandant suprême allié transformation de l'OTAN. Le monde a changé, nous sommes entrés dans une forme de guerre froide. Vous faites malgré tout le vœu que cette année soit l'arrêt des combats, même si on l'a bien compris, les vœux ne suffiront pas.